됐대요. 이씨 아 됐대요.
알로 레라? 이씨 라자야.
Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Radio
bonsoir.
Terre.
Oui, c'est ça, vous êtes bien sur Radio Terre.
L'émission Ici Radio Terre.
Voilà, c'est ça, Ici Radio Terre. Donc voilà, c'est notre première émission en direct. Je vais te laisser introduire un peu, Vincent.
Ici Radio Terre, c'est l'émission qui déconstruit la construction, comme tu l'as dit si bien dans le générique avec ta belle voix grave et suave. Et on aime bien, on trouvait qu'on avait besoin d'une petite émission qui parlait des enjeux sociaux et politiques, mais plutôt axée sur la construction. Nous, c'est la briqueterie Radio Terre, mais on n'est pas là pour se faire non plus trop de la pub, mais c'est une association qui essaye de redémocratiser la construction en terre crue et plus généralement de parler... des logiques de construction et des logiques sociales qu'elles impliquent.
Carrément. Et du coup, la briqueterie, elle se situe à Marseille.
Ouais.
C'est quoi l'adresse déjà exactement? Je sais que c'est près de la Peine.
C'est Traverse de la Peine dans le 11e arrondissement. C'est une briqueterie de terre crue. Donc, on fait que des briques sans cuisson, sans outils, sans trop de machines, avec vraiment une volonté de faire des choses participatives et vraiment de redévelopper, de redémocratiser la terre crue et de lui redonner ses lettres de noblesse, comme j'aime bien dire.
Ouais, et du coup, l'émission, elle est liée en fait, elle est liée à la briqueterie, au sens où on est tous les trois en partie à la briqueterie, enfin, vous très très souvent.
Ouais, avec ma cofondatrice Léa.
Salut.
Salut Léa.
Ici présente dans le studio. Et pour dire un peu vite fait, des briques de terre crue, c'est une terre plutôt argileuse qu'on va mélanger avec de l'eau, un peu de sable s'il y a besoin, ou de la terre sableuse,
ouais.
Et de la paille. Et avec on peut mélanger de différentes manières, hein, sur une bâche avec des pieds ou dans un énorme bassin.
Ou directement prendre le mélange dans une mare déjà. Déjà mélangé comme faisaient les anciens, je crois qu'on a vu sur certaines vidéos.
C'est vrai.
C'est le plus vieux matériau préfabriqué de l'humanité.
Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il n'y a pas de cuisson. C'est pour ça qu'on parle de terre crue. Mmh. Et du coup, il y a très très peu d'énergie qui est déployée pour créer ces matériaux.
Du coup, on l'a fait sécher comment? Avec des grands ventilateurs?
C'est ça, on a de la chance à Marseille. Il y a le Mistral qui est là pour nous aider à certains moments. Et sinon, il y a le vent, le soleil et c'est tout.
Voilà, donc sous une bâche avec le vent marseillais qui souffle dans les branches des briques pour les faire sécher.
Enfin, sous une bâche, sous une serre maraîchère,
ouais,
pour notre part. J'aime bien l'appeler la bâche, mais...
et d'ailleurs, en fait, il y a un petit événement à la briqueterie. On en parlera sûrement à la fin de l'émission, mais il y a un événement le 11 avril.
Samedi 11 avril, à partir de 10h.
Ce samedi, c'est le Terstival.
Le Terstival. On devait faire notre AG, notre assemblée générale, puisqu'on est une association, et on voulait par cette occasion réunir pas mal de monde et vraiment faire un truc un peu participatif et voilà, discuter du bilan et des perspectives de la briqueterie. Et ça s'est transformé en journée festive avec des ateliers, avec des ateliers, avec des pizzas le midi et avec des débats l'après-midi. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu en fin d'émission un peu des quatre grands thèmes des débats, voilà, comme ça, peut-être ça donnera envie aux auditeurs, aux auditrices
de passer nous voir.
De passer nous voir, de participer au débat, de nous donner des idées, qu'on leur donne des idées aussi.
Carrément.
Et voilà, un peu de musique, parce que comment faire la fête sans musique et voilà.
Surtout des très bonnes pizzas cuites au feu de bois,
dans
un four en terre crue.
En terre crue qui est maintenant cuit.
La terre est crue, mais les pizzas seront cuites.
Et si on parle un peu de la terre crue, c'est quand même une façon de construire qui est dans le monde très, très répandue et qui a été pendant très, très longtemps la majorité de la construction.
Qu'il est encore, je crois d'ailleurs, on dit qu'un tiers de l'humanité vit encore dans un habitat en terre crue. Et je lisais récemment dans un ouvrage qui s'appelle Bâtir en terre, qui parlait même de la moitié du patrimoine qui était soit en terre crue, soit la moitié des matériaux qui étaient encore de la terre crue. Enfin bref, mais c'est des très grandes proportions. Ouais.
C'est une ressource en fait qui est disponible partout et qui est très accessible. Donc c'est vrai que ça a été pendant très longtemps un des principaux matériaux de construction et qui malheureusement a été un petit peu oublié. Et du coup, c'est aussi notre envie, c'est de remettre un peu sur le devant de la scène le matériau terre, d'en reparler et de comprendre aussi quels sont ses intérêts, parce qu'il y en a de bien nombreux. Et aussi de réussir à comprendre comment on en est arrivé là et justement déconstruire justement la construction.
Parce que comment on en est arrivé là en France, on construisait en terre en France ?
Et oui.
Ah bon ?
Et oui, Jamy. Oui, partout on construit en terre et ce sont des savoir-faire qui se sont perdus petit à petit et qui ont laissé place... à des matériaux dans un souci de résistance et de dureté, on le verra peut-être après, on laissait place au ciment malheureusement et à l'acier.
Oui, en fait c'est vraiment des faits un petit peu historiques sur le fait, effectivement on construisait beaucoup en terre crue et pendant les guerres il y a beaucoup d'artisans qui sont partis au front et notamment des charpentiers, des maçons, enfin, et tout un tas de savoir-faire du coup qui a disparu. En fait, c'était des personnes qui étaient en première ligne parce que justement, elles allaient travailler à la fabrication des tranchées. Et donc, il y a eu beaucoup de pertes.
Ah oui, pendant la Première Guerre mondiale, tout à fait.
De tous ces savoir-faire en fait, post-guerre, quoi. Et il y a eu aussi le besoin du coup de reconstruire assez rapidement puisqu'il y avait eu beaucoup de dégâts un peu partout. Et c'est un peu comme ça que le ciment est arrivé sur le devant de la scène pour ses besoins de construire vite. Parce que c'était aussi l'essor de l'ère industrielle, des ingénieurs, des architectes. On arrivait à faire des calculs vite et rapidement avec ces matériaux qui se prêtaient mieux à l'industrialisation. Donc à la fois le ciment, à la fois l'acier. Et donc on a un peu laissé de côté la terre, le bois, tous ces éléments qu'on utilisait beaucoup plus avant en fait.
C'est vrai que l'actualité nous rappelle que le capitalisme a un lien avec les guerres et qu'effectivement la Première Guerre mondiale a fait chuter drastiquement les savoirs en terre parce qu'il fallait bien, comme tu disais, prendre les hommes pour les faire aller au charbon et je ne sais pas comment on dit, à la mitraille. Et ces savoirs de savoir terre et bois ont été perdus à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, comme tu disais, le ciment est arrivé. D'ailleurs, le ciment est arrivé avec Lafarge aussi, qui a collaboré avec les nazis, on le rappelle. Hein.
Oui, ça fait jamais de mal.
Et puis,
si je peux rajouter qu'on voulait reconstruire rapidement avec le ciment, qui est une recette qui marche partout, et qui du coup aussi... enlève tout un pouvoir, tout un savoir aux personnes qui mettent en œuvre et qui construisent les bâtiments. Et donc, ça nous donne une main d'œuvre interchangeable qui n'a plus de richesse intérieure à savoir construire et qui, du coup, va être beaucoup plus, beaucoup moins revendicative et beaucoup plus soumise au bon vouloir des grands patrons.
Et d'ailleurs, si on parle un peu de... Enfin, il y a une usine Lafarge pas très loin, vers Septaine-les-Vallons.
Ouais.
Donc, tu disais, pour faire du ciment, il faut un mélange particulier de pierre.
Oui, de calcaire et d'argile.
Tout à fait.
Une argile assez siliceuse. Mais voilà, tout ça a été inventé par Henri Le Châtelier, je crois. C'est vrai, mais... parce que je suis en train de lire un livre à ce sujet, enfin je viens de le finir et j'aimerais bien vous en parler après. Mais à des températures de cuisson astronomiques, le double de la chaux hydraulique quasiment.
1450 degrés.
Et en fait, c'est très chaud et en fait c'est quelque chose dont le rendement est croissant. C'est-à-dire qu'avant, la chaux hydraulique, on pouvait pas, si on avait une cheminée qui faisait 600 mètres de haut, c'était pas rentable. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de grandes cheminées en briques un peu partout dans Marseille. C'est des anciens fours à chaux. Mmh. C'était plutôt des tours entre 10 et 12 mètres de haut. Et on faisait notre petite chaux hydraulique, la recette un peu maison, entre guillemets. Et à l'avènement du ciment, on a découvert qu'en fait, on pouvait faire des tunnels, pas verticaux, mais horizontaux. Et donc sur des distances qui font plusieurs centaines de mètres. Et donc, forcément, on peut plus capitaliser la chose, puisqu'on peut investir. Plus on investit, plus on récupère. Et donc, malgré le fait qu'on soit obligé de chauffer beaucoup plus, c'est une méthode qui s'est beaucoup plus développée quand même, parce qu'il y avait une forte capitalisation. Et donc, une concentration des richesses. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit plus qu'une cimenterie par-ci, par-là, mmh. où avant, on voyait plein de petits fours à chaud. Toujours à proximité, les fours à chaud, par exemple, toujours à proximité d'une rivière, pour avoir une énergie continue et naturelle, surtout pour faire quelque chose qui tourne, de rotatif, pour broyer en fait la matière. On dit qu'un tiers, donc c'est toujours dans ce livre merveilleux, je viens de l'apprendre, un tiers de la fabrication du ciment, c'est le broyage de l'énergie utilisée pour la fabrication du ciment, c'est pas la cuisson, en plus de la cuisson, c'est le broyage. Du calcaire, de la pierre pour faire ce ciment.
Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Je ne sais même plus ce que j'allais dire. Ah si, je pensais à la Farge et à l'usine près de Septen. Je sais que dans l'argile, il y avait, si je ne me trompe pas, des matières qui étaient problématiques et que c'était assez polluant autour de l'usine et que les usines Lafarge, elles sont, il y a sept usines Lafarge en France et qui sont dans les 50 usines les plus polluantes de France.
Oui, de toute façon, il faut imaginer que quand on utilise des fours au fourneau, effectivement, on brûle quantité astronomique de choses et donc forcément, ça dégage des particules en tout genre, pas forcément hyper saines pour la santé. Et il faut préciser aussi par exemple, maintenant, il y a l'avènement des bétons verts. Mais c'est quoi un béton vert, en fait ? C'est un béton où on a brûlé des déchets qu'on considérait non recyclables. Et du coup, on considère maintenant qu'ils disparaissent, alors qu'en fait, juste, ils se transforment autrement. Et donc,
on les a valorisés.
On les a soi-disant valorisés. Et notamment, pour faire ces bétons verts, on brûle pas mal de pneus. Donc on peut imaginer effectivement le pneu disparaît de notre vision, mais il est bien quelque part. Et en l'occurrence, toutes les particules qui se dégagent à la cuisson des pneus, c'est vraiment des choses pas très très bonnes pour la santé.
Oui, donc il y a à la fois quand le four tourne, une quantité astronomique de CO2 qui est dégagée et d'autres polluants, alors qu'on dit que c'est du béton vert. Je voulais vous parler un peu d'un petit magazine qui s'appelle Passage, que j'ai trouvé au CIRA, qui est le Centre international de recherche sur l'anarchisme. Au 50 rue Consola. C'est pas très souvent ouvert, donc c'est ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi. Plutôt le lundi 15h-18h, ainsi que le mercredi 15h-18h et le vendredi 10h-16h. Donc 50 rue Consola et il y a donc cette revue Passage, dont le numéro 0 s'appelle La Civilisation. C'est une revue écologique radicale et féministe. Et je voulais vous lire un petit passage dans un article où on parle plutôt de la ville ou l'aplatissement du monde. Donc le petit passage que je voulais vous lire est intitulé « Une incarnation matérielle des inégalités ». Alors, si le tissu urbain fait souvent fi des spécificités du lieu où il prospère, les inégalités, elles, sont toujours profondément enracinées dans sa matrice. Et ce, à deux égards. Par la façon dont les villes sont construites et par la société qu'elles construisent en retour. Contrairement aux hameaux, villages et lieux de vie modeste en harmonie avec la terre sur laquelle ils se bâtissent, la ville ne peut être fabriquée de façon vernaculaire en fonction des ressources locales. Dès ses origines, il y a de cela quelques millénaires, elle requérait le déplacement massif de matière, ce qui n'est possible à grande échelle qu'à travers l'exploitation des humains et des autres animaux. Aujourd'hui, cela n'a pas changé. Pour la construction des villes, on extirpe des matériaux du fond des océans, entre parenthèses, le sable nécessaire à la fabrication du béton, ou des mines des quatre coins du monde, entre parenthèses, le fer qu'on retrouve dans les armatures en acier. Donc, l'extraction massive des ressources primaires s'opère toujours et de façon violente au détriment des populations locales. Quant à la mise en forme de ces matériaux sur les chantiers et la gestion ultérieure des espaces urbains, elle implique immanquablement l'exploitation humaine qui repose sur des systèmes économiques racistes, sexistes et classistes. Que l'on pense seulement aux travailleurs esclavagisés qui meurent sur les chantiers à Dubaï, aux femmes de ménage qui se courbent à l'aurore pour entretenir les millions de mètres carrés de bureaux métropolitains, ou aux ouvriers du bâtiment dont le corps est cassé avant l'âge de la retraite. Voilà, c'était un petit passage que je voulais vous lire et je vous laisse y réagir.
Oui, ben, effectivement, on se rend vraiment compte que maintenant, l'extraction notamment de toutes ces ressources implique une forte industrialisation, vraiment l'apogée du capitalisme. Et je voulais rebondir sur un terme que tu as dit dans ce petit texte qui est l'architecture vernaculaire. Du coup, juste pour expliquer ce que c'est l'architecture vernaculaire, c'est construire de manière logique avec ce qui nous entoure, les matériaux qui nous entourent, et en adéquation avec notre environnement, donc par rapport à la météo locale, par rapport à la géographie, comment on est positionné, etc. Et donc c'est vrai qu'avant, on voyait bien n'importe où dans le monde, ou même en France, en fonction de notre positionnement géographique, si on était à Marseille ou si on était à Lille, par exemple, on n'allait pas construire les habitations de la même manière. Tout simplement parce que déjà on n'avait pas les mêmes conditions météo ou autres et on n'avait pas les mêmes ressources autour de nous.
Ouais, la même végétation, le même entre guillemets bois, pierre, terre, je ne sais pas, c'est ça?
Tout à fait. Si on est dans une vallée, si on est à la montagne, on va pas avoir les mêmes ressources. Par exemple, à la montagne, on aura peut-être moins de terre, plus de bois. Dans une vallée, plus de terre, etc. Et donc à l'époque, les habitations tenaient vraiment en compte de ce qu'on avait autour de nous pour construire et comment construire de manière logique et avec des matériaux aussi intéressants par rapport à nos besoins. Quoi.
C'est pour ça que nous avons de si beaux villages français différents en fonction des environnements locaux.
Tout à fait.
Avant, l'architecture la construction n'était qu'un prolongement du paysage, ou tenter de l'être au maximum.
On peut remarquer déjà juste les toitures, par exemple.
Oui.
Ne serait-ce la forme des tuiles, en fonction des endroits où on est, il y avait des endroits où il y avait des tuiles en lauze, en ardoise, parce que c'était des pierres locales. Il y a des endroits où on faisait des bardeaux, donc des petites tuiles en bois. Là, dans le sud, c'est plutôt la tuile provençale en terre cuite, parce qu'il y avait des bassins d'argile. La pente des toits aussi, elle va changer. Si ouais, on a la montagne, vrai. Si c'est enneigé, etc. Et justement, après l'avènement du fameux béton, on a commencé à construire un peu partout pareil.
Et c'est moche.
C'est moche. Et aussi à exporter, malheureusement, ces systèmes de construction à l'étranger aussi, avec l'ère coloniale française, quoi.
Mmh. En fait, on a plutôt testé dans les colonies des méthodes et qui ensuite, une fois qu'elles étaient certifiées, on les importait en métropole, on les développait à coups de grands lobbies et de subventions d'État et ensuite on les dispersait dans le monde pour prospérer, quoi, tout simplement.
C'est ouais. ça.
Ça vous dit, on fait une toute petite pause musicale avant d'attaquer
La pièce de résistance.
La pièce. Je vous laisse écouter ce petit son.
Badal Ibrahimovic. du sable, du gravier, du ciment, ça fait tel béton, du sable, du gravier, du ciment, ça fait tel béton.
C'était une petite musique d'Albéton, comme vous avez pu comprendre, du coup, qui est un groupe qui, quand il vient sur scène, essaye de couler une dalle béton. Donc,
en même temps.
Pour ou contre, on ne sait pas. Mais...
Pour ou contre, effectivement, on ne sait pas. Mais il joue, il coule une dalle béton.
Si c'est du béton de terre. Mais je ne crois pas que ce soit du béton de terre, c'est plutôt du béton de ciment. Je crois.
Oui, parce qu'il y a un petit, comment dirais-je, le béton, c'est la dureté, c'est ça?
Le béton, c'est une charge et un liant.
Oui.
Donc ta charge, c'est souvent du gravier ou de ce qu'on appelle, merde, j'ai plus le terme, du sable, des grains, une chose incompressible. Et ton liant, c'est la colle. Donc dans un béton de ciment, ton liant, c'est le ciment. Dans un béton de chaux, ton liant, c'est la chaux.
Dans
il
un
existe
béton de terre.
Aussi un béton de terre où ton liant, c'est la terre ou plus précisément l'argile.
Parce qu'on parle souvent de béton pour dire en fait du
béton
ciment,
de ciment.
Béton,
ciment,
béton mode de vie béton style, il ne parle pas du béton de terre quoi.
Voilà.
Il parle du béton dans un océan de béton. Et le béton armé aussi, c'est souvent du béton de ciment armé à l'acier.
Tout à fait. Et tu voulais nous parler d'un petit livre, je crois, non?
Oui, un petit
Attends,
livre.
Attends, une introduction à ce petit livre.
Oui, je vais introduire tout ça. ce livre s'appelle « Accumuler du béton, tracer des routes ». En sous-titre, une histoire environnementale des grandes infrastructures de Nello Magalhães. Voilà, j'ai dit son nom une fois, je suis désolé pour la prononciation et je ne le reprononcerai plus pour tout le reste de l'émission. J'avais ce livre dans ma bibliothèque, mais c'était dans mes livres à lire et j'ai une très très grande pile de livres à lire. Et puis je lisais... mon petit Social Terre tranquillement.
Social Terre, du coup, qui est un magazine, c'est ça?
Ouais, un magazine Social Terre, magazine que je vous recommande. Et ils font souvent des hors-séries assez sympas. Lui, c'est leur série été 2025 qui s'appelle Territoire en résistance, de la lutte à la victoire. Donc, c'est plutôt sympa. Ça parle plutôt de luttes qui ont abouti et comment les luttes contre les grands projets inutiles imposés commencent à se fédérer et on voit, bon bref.
C'est bien de voir des luttes aboutir, voilà. Ça donne un peu d'espoir aussi.
Et on voit qu'il y a une expérience maintenant qui commence à être à se créer des luttes passées qui du coup facilitent les luttes à venir et voilà. Donc je vous le recommande. Et donc dans ce Social Terre, il y a un entretien de ce fameux Nello. Et en fait, dans ce temps, j'ai lu l'entretien, j'étais là, mais il faut absolument que je lise ce livre. Que j'ai dans ma bibliothèque en plus, ça tombe bien. voilà, dès les premières lignes, il parle direct, il dit « Le plus grand flux de matière en France comme dans le monde sont le sable, le gravier et la terre. » Donc voilà, vous savez qu'ici, à ras de terre, et dans le monde de la construction, on déconstruit la construction, mais on parle beaucoup du sable et du gravier et de la terre, ça nous intéresse beaucoup, et notamment ces grands flux de matière. Et donc il y a Elsa Gauthier qui a recueilli ses propos et qui résume très bien le livre, que je vais vous lire, donc son petit résumé au début de son entretien. Dans Accumuler du béton, tracer des routes, donc aux éditions La Fabrique, paru en 2024, Nello Magalhães réinscrit l'histoire des grandes infrastructures de transport de 1945 à nos jours, dans celle des mutations de l'économie française. Du fordisme des Trente Glorieuses au néolibéralisme, il raconte comment l'État et le patronat routier ont produit main dans la main l'espace dans lequel nous vivons. Une mise en perspective pour dénaturaliser le béton et de ciment et politiser les dégâts de l'aménagement capitaliste. Donc, il parle, dans ce livre, il parle des infrastructures de transport. Et c'est vrai que
nous, on parle plutôt souvent du bâti, quoi.
Voilà, nous, on parle du monde de la construction. On parle du monde de la construction. On dit souvent, vous savez, la terre d'excavation, parce que nous, on réemploie la terre. On dit la terre d'excavation, c'est le plus gros déchet par habitant par an dû au monde du bâtiment. Le monde du bâtiment, si c'était un pays, ce serait le deuxième ou troisième plus gros pollueur en termes de CO2, puis dans le monde, juste à cause du ciment, mais à cause des émissions de CO2. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que le monde du bâtiment, c'est surtout le monde des routes, des autoroutes, des tunnels, des trains et des ports.
Voilà, ah ouais, c'est pas du tout que ce qu'on voit dans la ville, c'est pas les habitations.
Ce n'est pas que les habitations.
Ah.
Et c'est, je crois que le réseau routier représenterait en surface le parc national des Calanques. S'il était en, donc, moi j'ai un peu du mal avec ça, mais on sait ce qu'il dit dans le livre et peut-être ça parle à des gens. Mais c'est immense et ça consomme énormément de quantité de matière inerte, hein, donc le sable, le gravier, la terre, des choses qui ne sont pas valorisées ou très peu. Et
bien d'autres choses, puisque je crois que tu en parles un peu après, mais on enfouit pas mal de choses sous la route aussi.
Et en plus, on profite de la route pour valoriser, comme disait les déchets. Donc, on avait un problème avec les déchets, les terrils, des mines, des choses comme ça. Mais on a tout mis sous les routes. C'est génial. C'est ni vu ni connu, un petit peu comme.
Ça disparaît, voilà. Quand on le voit plus. Ouais.
Pas vu, pas pris aussi, on peut dire aussi. Et. Donc moi j'ai beaucoup aimé son approche, donc vraiment très quantitative sur qu'est-ce qu'une route, qu'est-ce que ça consomme, et surtout mais pourquoi on en est arrivé à cette logique de il faut toujours plus de routes, plus épaisses, plus grandes, plus rapides.
Mais du coup, comment on en est aussi déjà arrivé au béton, non? Pourquoi en fait on n'a pas fait des routes en chaux, ou pourquoi le béton de ciment est devenu si important? À quoi il servait avant
Eh bien, historiquement, le ciment, au début, c'était pas très rentable. Enfin, il fallait chauffer très fort. Et ça marchait pas très bien à la traction. Donc, ça marchait bien à la compression, à l'écrasement. Mais ça marchait pas bien.
C'est-à-dire le fait de tirer.
Ouais, de tirer ou d'essayer de le casser s'il est fin, de faire un pont. Par exemple, on pouvait pas faire un pont en ciment. Ce qu'on a pu faire des ponts, c'est en ciment armé. Donc, ça arrive plus tard. Mais à la base, c'était surtout, ça résistait beaucoup à l'eau. Donc c'était visé pour faire les canaux, pour faire les ports, les digues,
les réserves,
etc. Voilà. Les grands barrages et tout, c'est là qu'a trouvé le ciment, avant même la Première Guerre mondiale, a trouvé un peu son domaine de prédilection, et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de subventions d'État. C'était pour faire les grands barrages hydroélectriques, les grands projets, tout ça. Et ensuite, les ponts et chaussées ont voulu faire des routes plus stables, surtout à des fins militaires, notamment en Algérie, pendant la colonisation de l'Algérie. Mais après, on commence à être après la Seconde Guerre mondiale,
ouais.
Et on veut stabiliser les routes, on veut que nos camions très lourds aillent très loin, passent dans les marécages, passent dans les déserts, etc., etc. Et c'est là qu'on découvre si on met du ciment dans la route... Directement, on vient pas retravailler la route, on vient vraiment la traiter chimiquement. On obtient des résistances, et donc c'est pour ça que je disais. Ensuite, on découvre ça en Algérie, et du coup, c'est extrêmement documenté. Les ingénieurs deviennent un peu des stars, ils vont faire beaucoup de colloques sur les routes en disant on peut faire des routes pour que des camions plus gros passent dessus.
Et tu disais c'est ça qu'on appelle les routes américaines à la base.
Ouais. Parce qu'à la base, il y a aussi des ingénieurs américains. Et ensuite, les États-Unis, on connaît leur réseau routier immense,
ouais.
Avec des camions de 50 tonnes, 60 tonnes. Ils ont aussi énormément travaillé sur ça, et aussi en Algérie, et qui vient les ponts et chaussées, dont ils parlent beaucoup dans le livre, et qui sont un peu à l'origine idéologique de la fabrication des ponts, au-delà même des ponts et des chaussées, comme il dit. Tu m'as dit quoi? Tu me dis non.
Ça vient du colonialisme.
Ça vient du colonialisme, et c'est après le génie militaire, en fait.
Ouais. Et donc c'est la starification de ces ingénieurs, c'est quoi? C'est des ingénieurs des ponts et chaussées.
Ouais. Ingénieurs ponts et chaussées. Il appelle souvent la seconde. Ah, j'ai plus le mot. Bref, c'est vraiment ce qui vient après la prise de décision, quoi. Vous voulez que je vous lise un petit passage sur les ponts et chaussées?
Allez, yes, petit passage sur les ponts et chaussées.
Donc c'est dans les laboratoires de la production d'espace, c'est la partie 10. La vie des réseaux, communication, énergie, etc. n'est possible sans un ensemble d'organisations et d'instruments indispensables pour les superviser, entretenir et maintenir. Une véritable seconde infrastructure, voilà, c'est comme ça qu'il appelle les ponts et chaussées, c'est une seconde infrastructure, est nécessaire pour éviter ou rétablir les ruptures de service, panne, obstruction, etc. De même, les infrastructures de transport ne se maintiennent que grâce au travail de laboratoire qui déploie des savoirs et techniques pour surmonter les instabilités. Leur rôle dans la production d'espace dépasse toutefois celui d'assistance technique des chantiers. Ils contribuent à temporiser les crises des déchets et de l'extractivisme et soutiennent objectivement le projet patronal d'adaptation du réseau routier national aux poids lourds. Donc, les ponts et chaussées. Parmi les agents omniprésents sur toute la période, il est un groupe qui joue un rôle très particulier, les ingénieurs des ponts et chaussées. Leur contribution à la politique d'aménagement du territoire et aux grandes infrastructures est très ancienne, dans le prolongement de celle du génie militaire. Après 1945, ils restent omniprésents dans l'administration des routes, mais aussi la gestion des aérodromes, les grands ports maritimes, ou dans l'urbanisme et les villes nouvelles. Pour reprendre un peu le passage que tu as lu de ton magazine.
Merci de me citer.
Leur formation et leur idéologie sont déterminantes dans la production d'espace en France. Les savoirs et techniques qu'ils développent ne flottent pas dans les airs. Fruit d'investissements conséquents de l'État, ils s'accumulent et s'incarnent dans des laboratoires et des effectifs. Au XIXe siècle, la seconde infrastructure, donc ces ingénieurs-là, inclut les laboratoires qui effectuent et normalisent les essais des matériaux, notamment de résistance à l'écrasement. Ceux du génie militaire à Boulogne-sur-Mer, de la ville de Paris et du Conservatoire des Arts et Métiers. En 1831 est créé le laboratoire de chimie de l'école des Ponts et Chaussées qui participe à l'instruction des élèves aux analyses de pierres à chaux, opération devenue de grande importance suite à la découverte de Vicat. Ces compétences s'étendent au fil des décennies aux essais et analyses des matériaux de construction, ciment et mortier. Ces entités ne sont pas omnipotentes. Tous les traités rappellent le besoin de ne pas accepter aveuglément le résultat et de toujours effectuer des tests in situ. Toutefois, les expériences qu'elles réalisent consacrent objectivement certains matériaux comme le ciment au détriment d'autres matières. Encore aujourd'hui, le laboratoire de la ville de Paris reçoit chaque mois les ciments de tout le pays afin de certifier leur résistance par la norme VP. Et quand il met d'autres matières, il met une petite note. Ouais. C'est la note numéro 447 pour vous dire à quel point ce livre est cité et sourcé dans tous les sens. Et cette note 45, je l'aime beaucoup parce qu'elle parle de l'arrêté du 19 juin 1856 relatif à l'interdiction des constructions en pisé de terre.
Ah.
En pisé de terre, en insistant sur le fait que, je cite, enfin qu'il cite dans le traité, les pisés ne présentent qu'une résistance très faible à l'écrasement, qu'ils cèdent souvent sous le poids des charpentes et qu'il y a lieu pour ce motif de les interdire d'une manière absolue dans l'intérieur des villes où il est d'usage de donner aux constructions une grande hauteur. Et ça, c'est de Monsieur V. Villain, Sociologie du champ de construction en terre crue, 1970-1920. Et ça, c'est la thèse que je vais lire d'ici samedi pour avoir un peu de choses à dire pour le Tertival.
C'est faux, non ?
Et juste pour faire une petite aparté sur ce que c'est le pisé, si jamais il y a des auditeuristes qui ne savent pas exactement. Mm-hmm. Donc c'est un type de construction en terre crue. Donc il existe plein de façons de mettre en œuvre la terre crue. Et le pisé, c'est une des méthodes. Et donc c'est un peu l'équivalent d'une sorte de béton de terre, puisqu'on a des charges, donc des cailloux, des graviers, etc., présents naturellement dans la terre. Et un peu d'argile, donc en fait c'est une terre qui est naturellement composée ainsi et qu'on va venir compacter pour créer la résistance du matériau. Et donc c'est des méthodes qui étaient beaucoup utilisées dans certains bassins, par exemple en France parce que la terre s'y prêtait, donc notamment en Rhône-Alpes on trouve encore beaucoup de bâtiments empisés dans ce secteur.
Mais les immeubles de Croix-Rousse à Lyon, il y en a certains qui sont encore empisés. Et
C'était quand même des immeubles de plusieurs étages.
Ouais, ça montait quand même en hauteur. Et
que raconte cet homme alors ? Pourquoi il dit ça ?
Des inepties, je pense. Non, mais c'est vraiment, voilà. Et c'est 1856, hein, donc ça commençait déjà très tôt.
Ça montre aussi qu'on essaye déjà de mettre un peu de côté certains matériaux et savoir-faire au détriment de d'autres, quoi, qui et sont plus rentables, qui sont...
Sous couvert d'une pseudo-neutralité scientifique et de tests en laboratoire, de choses comme ça. Donc on enlève le savoir aux artisans, aux artisanes, oui, je sais que ça tient, t'inquiète pas, j'en ai fait des immeubles. Ah non, mais j'ai fait mes calculs, ça ne tiendra pas, donc on l'interdit. Ça devient dangereux, notamment en ville, parce que c'est là qu'on essaie.
D'ailleurs, il me semble que ce que tu as cité, en fait, il ne donne pas forcément des chiffres, il dit souvent. Souvent, ça ne tient pas.
On sait que c'est pas. Alors, effectivement, quand tu fais ton test à l'écrasement, ce qui parle aussi de Vicat, l'aiguille de Vicat, qui a inventé, en fait, les premières chaux, en fait, du coup, c'est passé à la chimie au laboratoire, donc tu passes à des tests de résistance et donc tu normalises, toute ta norme vient de ton matériau le plus dur et tu essaies toujours de faire plus dur. Donc forcément, ta terre, elle ne va pas réussir à passer ces normes-là et être standardisée ainsi, mais c'est pas tout, en fait, la résistance à la compression.
Et ce qui est très difficile, justement, avec la terre crue, c'est si on creuse là sous nos pieds ou à 50 km, en fait, la terre n'aura jamais la même composition. Donc, c'est très difficile de créer une seule recette, une seule norme universelle par rapport à la terre crue, alors que c'est sûr que le ciment, c'est du calcaire qu'on vient broyer, qu'on vient chauffer à un certain degré. Du coup, ça le rend d'une certaine manière universel. Et donc, c'est aussi pour ces logiques d'industrialisation et de rentabilité que c'est plus facile de continuer à construire avec certains produits qui sont normés. Mais c'est toujours la question de la norme. Qui crée la norme? Pourquoi? Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on abordera au Terstival.
Carrément. Et je rajouterais encore que, du coup, j'ai lu qu'en 1831, il crée le laboratoire de chimie de l'école des ponts et chaussées. Donc, on est dans plutôt quelque chose de construction, mais on a un laboratoire de chimie. Et donc, il y a une note qui dit « À la même époque, le laboratoire de chimie est également placé au cœur du système de production des savoirs sur l'agriculture et des transformations des pratiques agricoles. » Donc là, on voit aussi que c'est à peu près la même époque du grand remembrement, je crois, ou des choses comme ça, où en fait, c'est des ingénieurs maintenant qui vont dire aux artisans, artisanes, ou aux agriculteurs, enfin aux paysans, paysannes, comment ils doivent produire. Et donc, c'est souvent produire plus, à plus grande échelle. Et donc, il fait aussi le lien dans ce livre entre le grand remembrement, les nouvelles pratiques agricoles face à la paysannerie et l'industrialisation des routes et du bâtiment face à l'artisanat vernaculaire.
Et tu disais aussi qu'il y avait un lien particulier avec les revendications des terrassiers.
Ah oui, mais ça c'est dans d'autres chapitres, c'est plus au début où il parle vraiment des quatre gros matériaux, donc le ciment, le sable, la terre. Et effectivement, je ne le savais pas, les terrassiers à la fin du XXe siècle font partie des groupes syndicaux les plus revendicatifs. Même avant la fin du XXe siècle, avant la fin 19e, hein, puisqu'ils ont soutenu beaucoup la Commune de Paris, etc. Donc c'était quand même un groupement très puissant et avec des façons de travail très optimisées, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup de machines, du coup ils devaient vraiment optimiser tous les gestes. Bon, ça je m'égare un peu, mais...
C'est quoi exactement un terrassier, en fait?
Un terrassier, bien, bonne question, c'est quelqu'un qui... c'est le métier de déplacer vraiment des matières assez inertes pour créer des terrains propices à des routes, à des constructions, des choses comme ça. Donc on va avoir un terrain un peu vallonné, quelque chose comme ça. Le terrassier va venir creuser à des endroits et remblayer à d'autres et vérifier que son talus a la bonne angle pour pas qu'il s'effondre, etc. Donc c'est vraiment le travail...
Une terrasse, quoi. Enfin, un truc plat.
Ouais, c'est un travail assez géologique dans un terme où on va vraiment... on va pas amener une matière et la... On va pas amener comme... Faire de la mise en œuvre, on va vraiment faire du nivellement.
Okay.
Et à la base, avant, ça se faisait vraiment à la brouette. À la brouette et à la pelle et à la pioche. Et notamment, c'est documenté dans ce livre qu'il utilise aussi beaucoup d'annales, même des ingénieurs et penseurs qui font des mesures, et on voit que même à la fin du XXe siècle, la brouette est quasiment aussi rapide que la machine. Enfin, c'est à pas grand chose. Et c'était un corps de métier très exposé. Il paraît-il qu'il y avait plus de morts dans les travaux de carrière de terrassement que dans les mines.
Ah oui.
Et donc ils ont été très revendicatifs. Ils avaient un fort pouvoir puisqu'ils bloquaient les axes de transport, puisque c'était eux qui les construisaient. Donc ils savaient casser une route, ils savaient faire tomber un talus, etc. Et ensuite, ils ont été très rapidement remplacés par des machines qui, au début, n'avaient même pas le même rendement, mais qui au moins ne faisaient pas grève. Et ensuite, le fait d'avoir que des grands patrons aient investi dans des grosses machines, des fois, il n'y avait pas besoin de faire des travaux, mais les patrons disaient, si on ne fait pas de travaux, ma machine, je ne pourrais pas la rentabiliser, donc il faut faire des travaux. Donc on est entré un peu dans un cycle, et ensuite on a perdu vraiment ce travail de terrassement, pareil, qui était assez artisanal, quoi.
Du coup, c'est construire toujours plus, plus,
voilà, plus vite,
dense,
plus grand, plus lourd.
Et du coup, tu voulais que l'on mette une petite musique,
oui.
Et tu veux nous parler un peu de cette musique
C'est une musique que j'écoutais beaucoup avec ma mère, que je salue, qui doit m'écouter, non pas du tout, qu'on écoutait tout le temps. Donc c'est une musique de Trian, qui parle d'un immigré irlandais qui va en Angleterre et qui est loin de sa famille. Et je l'ai toujours écouté, enfin, elle m'a toujours plu cette chanson, et il y a juste un couplet où il dit « Je construis des digues, des usines et je transporte des montagnes ». Et ça m'a toujours fait rêver, cette phrase. Et en fait, là, en lisant le livre, ça m'a... cette phrase me revenait parce que c'était, en fait, oui, les usines, l'industrialisation, les digues, donc vraiment retenir le naturel et transporter des montagnes qui, on dirait que c'est littéral. Enfin, on dirait que c'est... ouais, c'est ça. Enfin, non, justement, que c'est pas littéral, que c'est...
Poétique,
voilà. Mais en fait, c'est littéral. Et il en parle aussi dans le livre. C'est vraiment un impact géologique fort, le terrassement et le déplacement de matière.
J'ai le cœur brisé de partir. N'oublie pas ton ouvrage de la journée. Penserai fort à toi, Mary. À des milles de miles de toi, je construis des digues, des usines, je transporte des montagnes, serai près de vous en novembre, quand reviendrai de campagne. Kiss the children for pour eux, j'ai le cœur brisé de partir. Kiss the children for me, Mary.
J'aime beaucoup cette chanson. Je la trouve un peu... Il y a un peu de mélancolie. Et en même temps, il y a un truc un peu d'aventure, quoi. Quand le rythme un peu s'emballe, mais justement, sur les digues, les usines, les montagnes, c'est assez spectaculaire. Et du coup, c'est un peu cette opposition entre la tristesse de l'exil et en même temps le côté épique du travail intense.
Ok, juste avant, tu nous parlais des terrassiers, c'est Gaucho qui faisait chier le patronat, qu'on a remplacé par la machine.
La machine, c'est bien, ça ne fait pas grève, mais ça a un coût d'entretien assez important.
Et du coup,
il faut faire des chantiers, quoi.
On est dans une logique de l'utiliser tout le temps.
C'est ça.
La rentabiliser.
Quand il n'y avait pas de chantier, les patrons n'étaient pas contents, allaient un peu frapper à la porte des dirigeants. Ils disaient, vous ne pouvez pas faire une petite autoroute par-ci, par-là, là, parce qu'on a des machines qui dorment, quoi. Donc, on est...
Ou même, tu parlais de l'entretien aussi, le niveau d'entretien des routes.
L'entretien des routes, le niveau d'entretien des routes, effectivement. Dans le livre, il s'attarde beaucoup sur un hiver, l'hiver 1963, où il y a eu un très fort gel. Et en fait, les camions qui, pendant le dégel, s'il y avait des camions qui passaient sur la route, ça l'abîmait, plus que de raison. Donc la solution des pouvoirs publics, c'était de mettre des barrières, des barrières de dégel, je crois qu'ils appelaient ça. Donc c'était un moment où les camions ne pouvaient pas passer. Mais forcément, si les camions ne peuvent pas passer, c'est tout le commerce, le libre-échange qui est entravé. Donc ça embête beaucoup, les grands patrons. Et du coup, ils ont fait pression pour, sous couvert de « il faut entretenir nos routes », de choses comme ça, d'épaissir les routes, de les agrandir. Et du coup, ils ont épaissi les routes et ils ont agrandi, mais du coup, ils pouvaient mettre des camions plus lourds dessus. Mais du coup, qu'abîmaient plus les routes. Donc, il fallait les entretenir davantage.
Parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. C'est les camions qui abîment les autoroutes.
C'est encore le cas aujourd'hui.
C'est pas les voitures.
Ouais, c'est les camions. Et donc, c'est prouvé depuis très longtemps. Et c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'entre un camion de 13 tonnes et un camion de 35 tonnes, c'est pas le double. C'est un facteur, je crois, 8 ou 12 pour les mathématiciens et les mathématiciennes qui nous écoutent. C'est une très forte exponentielle. Et on dit que c'était, je ne sais plus, 1 million de chevaux, mais même c'était insignifiant par rapport à un seul camion trop lourd.
Est-ce que tu peux nous rappeler, pour finir un peu sur le livre, est-ce que tu as les chiffres de la quantité de terre qui est déplacée pour quelques mètres d'autoroute?
Oui, donc dans le livre, il dit pour 1 mètre linéaire d'autoroute, donc autoroute, juste 1 mètre. Pour avancer d'un mètre, l'autoroute, qui dans le livre appelle ça plutôt des camions-routes, justement parce que en fait c'est pas des routes faites pour les voitures, c'est des routes faites pour les camions.
1 mètre de camions-routes.
Donc 1 mètre de camions-route, 2 voies, donc 2 fois 2 voies, c'est 100 mètres cubes de terre déplacée. Voilà. Donc, vous faites des grands yeux parce que vu qu'on est un peu dans la terre, on sait ce que c'est 1 mètre cube de terre, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Là, c'est 100 mètres cubes pour 1 mètre, et il dit que ça peut aller jusqu'à 200 mètres cubes. Et pourquoi? Parce que si on veut aller plus vite, plus loin, plus fort, il faut faire des lignes droites, il faut faire des plus grandes courbes. Et forcément, on va avoir des collines qui vont se présenter devant nous. Mais on ne va pas pouvoir faire une pente de plus d'un certain degré. Donc, solution, dynamite, il n'y a plus de collines.
Et on en fait quoi de toute cette terre?
Et qu'est-ce qu'on fait de toute cette terre? Souvent, on la met sous la route, pas vu, pas pris. Et l'excédent, on va venir faire des fois, il y a des petits talus de quelques mètres, mais en fait, qui font tout le long de l'autoroute. En fait, on a la terre sédentaire qui va être là. C'est un peu cacher la misère, cacher l'impact. Mais on a scié des montagnes en deux, on a revallonné des collines et tout. C'est vraiment un acte géologique.
Et tu disais, c'est la même chose aussi pour les trains à grande vitesse. Ouais.
Les trains à grande vitesse, il en parle, il dit les chiffres, je ne les ai plus exactement. Mais en gros, un TGV, ça ne peut pas avoir une pente de plus de 0,05%, en gros. Donc, il faut que ce soit très, très plat. Et faut pas que ça, vu que ça va très vite, ça ne peut pas tourner. Donc, pareil, s'il y a une montagne, soit on fait un tunnel, soit on fait de très grands talus. Et s'il y a une pente, on va faire une très grande digue. Et donc, on va déplacer des montagnes, comme il le dit dans
la chanson que j'aime bien. Littéral.
Littéralement.
Il nous reste 10 minutes. On va passer, je pense, à...
C'est passé super vite.
Ouais, c'est ça, quand c'est intéressant et qu'on...
qu'il y a des bons animateurs, animatrices.
Au Terstival, je pense.
Ouais, on peut peut-être conclure sur le Terstival.
On sait quand?
Eh bien, c'est ce samedi. C'est 11 avril. 11 avril.
2026.
À partir de 10h jusqu'à peu près 18h.
Où ça?
Mais c'est où?
Eh bien, chez nous. À la briqueterie Rat-Terre. Donc, c'est 196 Traverse de la Peine, dans le 11e arrondissement de Marseille.
C'est sur un tiers-lieu, non?
Sur le tiers-lieu du Grain de la Vallée. Et donc, c'est facilement accessible depuis le centre, notamment avec la ligne de train qui fait Marseille-Aubagne. Il faut s'arrêter à La Peine sur Uvonne et après, c'est 10 minutes à pied. Et sinon, il y a des bus aussi qui relient Marseille et Aubagne. Et il y a à peu près 15 minutes de marche depuis l'arrêt de bus. Sinon, à vélo, vous pouvez aussi passer nous voir ou peu importe, en voiture. On accepte quand même.
Je ne sais plus si on ouvre le parking ou pas. Oui, il y aura un parking.
Il y aura un petit parking qui n'est pas très grand.
Du covoiturage, c'est préférable, mais il y aura un petit parking si vous venez quand même en voiture.
Et pour vous parler un petit peu de la programmation, du coup, il y aura des ateliers plus tôt le matin, mais il y en aura peut-être un petit peu qui vont continuer l'après-midi. Mais c'est principalement sur la matinée. Il y aura notamment un atelier autour des pigments et de la terre crue, donc plutôt autour des enduits, donc pour expérimenter un petit peu. Donc ça sera de 10h à midi.
Et c'est quoi exactement du coup c'est-à-dire pigments et... C'est quoi un enduit déjà? C'est ce qu'il y a sur le mur?
Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est...
Il y a des enduits en terre?
Des enduits en terre, ouais. Ah ouais.
De différentes couleurs?
De différentes couleurs,
et on va essayer de faire un enduit sur un mur?
Ça sera de l'expérimentation plutôt pour voir la matière, comment elle fonctionne, les pigments, les couleurs. Voilà.
Sur une petite surface.
Sur des petites surfaces.
On peut venir tester son futur enduit, choisir sa couleur. Si c'est jamais, ça.
Tester sa créativité, voir comment la terre, c'est magique et ça tient même en enduit. Et après, il y aura aussi d'autres ateliers, donc notamment des ateliers plus ciblés sur les adobes, donc c'est les briques que nous, on fabrique à la briqueterie. Donc, il y aura un atelier pour voir un petit peu comment on peut faire du mélange sans outils, donc mélange au pied. Et comment on passe du coup d'un tas de terre à une matière qui peut être utilisée pour fabriquer un matériau. Et du coup, il y aura le deuxième atelier qui permettra justement de fabriquer des briques et voir comment on peut fabriquer des briques en terre.
Des adobes sans outils, sans machine.
Avec un petit moule.
Voilà, on vous donne tous nos secrets de fabrication. On sera avec vous pour si vous avez des questions. Et c'est vraiment le but aussi de l'asso, c'est pas de nous avoir notre set et de vendre un maximum de briques. C'est vraiment de démocratiser cet acte de construire.
Et de faire un ras de terre.
Dernier atelier, ça sera sur la découverte du pisé. Donc tout à l'heure, on en a parlé. Et donc ça sera pareil, une petite initiation pour comprendre justement comment ça fonctionne le pisé, puisque y aura eu la technique de l'adobe et la technique du pisé. C'est deux types de constructions en terre crue qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas très avec les mêmes terres. Donc voilà, ça permet aussi de voir un petit peu le panel des possibles avec la terre crue. Et tout ça, ce sera co-encadré avec une super team de bénévoles qu'on remercie chaleureusement, qui va nous aider pendant toute cette journée. Et même les jours avant, enfin voilà.
Trop bien, donc n'hésitez pas à venir le matin si vous voulez faire de l'espionnage artisanal.
Industrialo-artisanal. C'est le ça continuera aussi un petit peu l'après-midi, mais l'après-midi, il y aura plus un temps de débat.
Ok.
Parce qu'on a aussi à cœur de discuter, d'échanger et de s'organiser.
Tout à fait.
Et ces temps de débat viendront après le temps du midi où il y aura des pizzas donc, et un petit DJ set. Et puis, je pense qu'il y aura un peu de musique aussi tout au long de la journée. Voilà. C'est le Grain-de-la-Vallée, le tiers-lieu, il y a quand même des grands jardins, des grands arbres. Bon, on est un peu au bord de la route, mais c'est quand même super agréable même de juste rester traîner dans les jardins.
Il y aura
la pépinière Mastoc et la floricultrice Fleur de Marseille, qui sont nos voisines de tiers-lieu, qu'on embrasse bien fort, qui feront des ventes de plants et de fleurs donc pour vos potagers. Ou pour,
sur les matinées.
Voilà, sur la matinée. Donc... même si vous n'êtes pas professionnel de la construction, passez faire un tour, c'est festif, on s'amuse bien.
On a prévu aussi un petit endroit qui s'appelle la bibliothèque, où on va mettre à disposition le temps du festival des ouvrages, si vous voulez feuilleter. Donc peut-être qu'il y aura
il y sera.
Le livre de Vincent.
Il y a beaucoup d'annotations dedans, mais il y sera.
D'ailleurs, donc, si vous voulez venir voir...
Je voulais juste signaler aussi qu'en fait, il y a un site internet Ras de Terre.
Oui.
Et que sur ce site internet, il y a aussi des ressources. Donc, vous allez apprendre des connaissances manuelles. Vous allez faire travailler la terre avec vos mains. Mmh. Et en même temps, si vous voulez rappeler un peu des choses, parce que vous avez oublié chez vous comment on fait une brique, comment on la pose.
Il y a tout sur notre site.
Il y a des, comment on appelle ça, des petits fascicules de bonnes pratiques.
Tout à fait.
Et oui.
Qu'on retrouve
bien
sur
se
le
comporter
site.
Avec la terre.
En tout cas, comment on met bien en œuvre la terre, tout ça, c'est sur le site, sur l'onglet ressources.
Ressources, blog et ressources.
Pour juste revenir par rapport au temps du midi. Pour les pizzas, on prend encore les réservations jusqu'à
demain.
Demain matin.
Demain midi.
Et après on bloque et donc on fait deux pizzas. Donc si vous avez envie de venir goûter nos pizzas, rendez-vous sur notre page Eloasso pour réserver votre pizza.
Tout est sur Eloasso. Et même si vous voulez venir, vous pouvez venir comme ça, mais si vous pouvez dire sur Eloasso que vous venez, comme ça on anticipe un petit peu la fréquentation. Mais pour les pizzas, par contre, c'est réservation sur Eloasso obligatoire. Car je coupe une bûche de bois pour chaque pizza réservée. Donc,
tout à fait. Et du coup, pour ne pas se tromper, Ras de Terre, ça s'écrit R-A-Z-D-E.
Comme le rat de marée.
Voilà. Le rat de marée, mais de terre.
De terre.
Mais notre animal totem reste le rat quand même.
Voilà. Et du coup, c'est l'après-midi, vous disiez, il y a différentes ateliers, table ronde, comment on appelle ça table d'échange.
Oui, on a appelé ça Creusons Ensemble.
Ouh, quel jeu de
mots. C'est pas mal, non ?
Oui.
Voilà, temps d'échange et de débat. On voulait un peu faire des tables rondes, mais pas juste des tables rondes, quatre personnes qui parlent et le reste qui écoute. Et juste, vraiment faire quelque chose un peu participatif et avec vraiment une sorte de débouché, de pas juste on dit ce qui va pas et on s'arrête pas, vraiment d'essayer de, même si c'est déjà très bien, on essaye d'essayer de, d'insuffler quelque chose peut-être voilà, pour l'avenir, même que ce soit au sein de la briqueterie ou même en dehors, quoi, que ce soit aussi un lieu pour des personnes qui voudraient insuffler des actions voilà, un peu autour du thème de la construction quand même, parce que c'est un peu notre fer de lance, mais bon bref.
Du coup, on fait sortir quatre thématiques.
Quatre thématiques.
Qui seront animées par chacun de nous.
Ouais, une par personne, enfin par nous. Et donc, la première thématique, c'est la Terre, une ressource accessible pour qui et à quel prix ? Donc ça, c'est avec notre cofondateur qui est absent, mais qui c'est Yanis qui va s'occuper de cette partie. Donc, en sous-question, on a comment réussir à rendre la terre crue abordable pour qu'elle bénéficie davantage aux classes populaires et moyennes, tout en ayant une rémunération digne pour les artisans et artisanes, et comment rénover sans gentrifier ?
Excellente question, je trouve.
Ensuite, on a pourquoi la terre crue est si impopulaire ? Donc ça, c'est moi qui vais m'en charger. Mmh. Matériau de construction le plus utilisé dans le monde, en France, il est traité avec méfiance, mépris et même considéré comme un déchet. La terre crue n'a pas la place qu'elle mérite. Comment en sommes-nous arrivés là et comment inverser cette tendance ? Donc voilà, ça j'en me suis un peu servi du livre, c'est plutôt intéressant. Léa va nous faire le plaisir d'animer le débat. Y a-t-il un lien entre terre crue et féminisme ? Spoiler, yes. Les femmes sont très peu représentées dans le BTP, domaine particulièrement machiste et patriarcal. Pourquoi observe-t-on davantage de femmes dans le monde de la terre crue ? Cette matière pourrait-elle remettre en question nos manières de travailler pour plus d'inclusivité ? Donc voilà. Et enfin, Roms, je vais un peu vite parce qu'on n'a plus trop le temps.
Vas-y, dis-moi.
La terre, un matériau de rupture ou de transition ?
Ah oui, c'est moi ça.
La terre crue doit-elle se mettre au rythme des cadences actuelles de construction ou nous appelle-t-elle plutôt à ralentir ? Le modèle artisanal peut-il concurrencer le monde de l'industrie, quitte à lui ressembler, ou doit-il cultiver sa différence ?
Ça va être incroyable.
Voilà, donc on a à peu près... Donc comment ça va se passer ce temps de débat ? On va passer à peu près une... On a 2h30, donc on voulait passer une heure par question. Donc, on fait un petit groupe, sous-groupe. Donc, chacun d'entre nous, cofondateur, cofondatrice, auront un thème. Et on va avoir les gens qui souhaitent parler de ce thème pendant une heure. Et ensuite, il y a un petit temps on boit un petit coup, on se remet un peu les idées en place. Et ensuite, la deuxième heure, plutôt tous et tout ensemble, voilà, pour faire un petit tour de ce qui, des idées qui ont émergé. De toute façon, les quatre thèmes ont des liens, quoi, forcément. Donc, voilà, c'est plutôt la deuxième heure, c'est plutôt faire le lien entre ces quatre thèmes.
Et voir aussi quelles actions on peut proposer pour essayer de faire une suite et poursuivre après.
Ouais, tu as raison. En fait, le but, c'est aussi que les gens s'engagent un peu dans la terre. Ça devient un petit peu urgent qu'on change un peu nos façons de construire et qu'on, voilà, qu'on puisse, je ne sais pas si c'est être aidé par les pouvoir public ou bien forcer à...
Ça peut être, oui, voilà, programmer une lettre ouverte à je ne sais quel décideur financier, de dire maintenant, il faudrait peut-être penser à la terre, il faudrait peut-être faire ceci, faire cela. Et notamment, ce serait bien ensuite d'avoir un suivi peut-être sur cette émission, qui est tous les deuxièmes mardis du mois. C'est même si aujourd'hui on est le premier mardi du mois, c'est exceptionnel. Mais voilà, peut-être avoir un suivi sur cette émission, peut-être nous donner des idées de sujets.
Tout à fait, ça peut être aussi capturer un patron du BTP ou du CIO et après
de
voir...
De chez Lafarge.
Et le faire parler. Faire un masque à l'argile.
Faire un masque à l'argile pour qu'il ait une belle peau. Est-ce que vous voulez rajouter un truc en plus ? On est sur la dernière ligne droite, on va se quitter là.
Ben, merci de nous avoir écoutés.
Ouais, merci beaucoup. Très content de ce premier direct avec vous les amis. Et on espère vous voir nombreux aux terres estivales et pour plus de terres dans nos maisons.
Eh bien oui, à très bientôt.
Bye.
The chimneys got chairs, them a plenty dub a dub. In your town, your city, your club. The chimneys got chairs, them a plenty dub a dub. In your town, your city, your club.
The original Stan Aperture is playing in your town tonight. So don't be late, and do not forget your dancing shows. Listen this word,
Stan I dub it. Stan, I dub it. Stan, I dub it. Stan, I dub it. Stan, I party. This is the Stan, I party. In a dub a dub styling. In a dub a dub styling.
bright, me na dark. Me your man, me na cut. Me nice, me na rat. Not flavors, me got. We got flavor, we na flat. So listen, this your butt, son. Please hear that. Me large, me na fat. Me bright, me na dark. Me boy, me na cut. Me nice, me na rat. Not flavors, me got flavor, we na flat. Me sing, me na chat. You a call me a hot. Original Papa Jimbo Rock. Not flavors, yes, me have been stuck. Some a call me Dr.